Bonjour, nous sommes le dimanche 21 février 2021 et donc l'enregistrement du culte n'a pas pu avoir lieu ce matin. Et donc voici l'essentiel du message. Donc nous avons poursuivi ce matin l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Versets 21 à 31, nous avons vu dans l'introduction, et nous avons vu également dans le chapitre 1, 2 et la moitié du chapitre 3, que tous les hommes sont coupables devant Dieu. C'est la démonstration que Paul voulait faire. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. Ils vivent sous l'empire du péché, sous la domination du péché. Et ils ont besoin d'être libérés de cette culpabilité. Ils ont besoin, tous, besoin de pardon. Ils ont besoin de délivrance. Et bien sûr, Dieu va intervenir à la faveur des hommes. Il ne va pas nous abandonner. C'est pour ça la suite du texte marque une rupture avec un « mais maintenant ». Donc une série de 4 messages sur la justification par la foi sans la loi, titre d'aujourd'hui. Et la série s'appelle « La magnifique justification par la foi ». Et donc on va voir ce matin l'essentiel de cette justification, en quoi ça consiste. Après ce sera développé dans les semaines à venir. Je lis le texte. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier, d'être fier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui. Oui, il est des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, les juifs, et les incirconcis, les non-juifs, les païens, tous les autres. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Comment être juste? Première partie, l'apôtre Paul fait un petit résumé de tout ce qu'il va développer. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Comment être juste? Dieu peut rendre l'homme juste. Dieu peut le faire, ce que l'homme est incapable de faire lui-même. Dieu peut le faire. Ce qui est... Jésus-Christ prenait cette image de... essayer de faire passer un chameau dans un trou d'une aiguille. Impossible. Et il ajoute, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, tout est possible, oui. Avec Dieu, tout est possible. L'évangile biblique, le développement de cet évangile par la foi trouve sa racine, pardon, dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne la loi, Paul va développer dans la suite du passage, en ce qui concerne la foi, il a, les prophètes, pardon, en ce qui concerne les prophètes, il en a déjà parlé, chapitre 1, quand il a cité le prophète Habacuc, le juste vivra par la foi. Et il y a tellement d'autres exemples dans la Bible qui parlent de cela. Comment être juste? Dieu peut nous rendre juste. Comment être juste? Par la foi en Jésus-Christ. C'est Dieu qui choisit la méthode. Bien sûr. Cette justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Vous avez peut-être le sentiment de culpabilité, la culpabilité que l'on porte parce que l'on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, pèse sur consciemment et inconsciemment. Et quelque chose dont on veut se dégager, se libérer. Et il y a toutes sortes de personnes qui vont vous proposer des solutions. Un tel vous va dire fais du yoga, un tel va dire fais de la méditation, un tel va dire fais du sport, un tel va dire bah vas-y, cultive-toi, toutes sortes de solutions qui peut-être vont donner quelques résultats, mais personne ne va vous dire fais ça et puis Dieu, tu trouveras la justice que Dieu attend. Jésus-Christ seul peut nous obtenir la justice de Dieu. La justice de Dieu s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est marqué noir sur blanc dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 6. Comment être juste? Il faut croire en Jésus-Christ. Par la foi, pour tous ceux qui croient, l'apôtre insiste là-dessus. Il se répète. La foi n'est pas un concept, quelque chose qu'on pourrait apprendre comme ça sur les bancs de l'école. Non. La foi touche notre cœur, elle touche notre volonté. Elle met en œuvre notre corps, nos membres. La foi, c'est croire ce que Dieu dit et agir en conséquence. Croire ce que Dieu déclare et agir en conséquence. Alors, sans plus attendre, voyons voir ce que l'apôtre Paul nous explique maintenant. Versets 23 et 24. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est qui? C'est les hommes. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont sous l'empire du péché. Et qu'est-ce que c'est péché? Péché, c'est faire ce que ne pas faire, excusez-moi, ce que Dieu attend de nous. Hein, si vous êtes dans une famille, vous avez des enfants, si vous êtes vous-même enfant, on sait, à la maison, ce qui va être agréable à papa et à maman, ce qui va les faire mettre en colère. Et le péché, c'est en colère, le Père Céleste, faire les choses qui lui déplaisent. Alors pourquoi péchons-nous? Pourquoi péchons-nous? Parce que nous sommes pécheurs. Pourquoi nous sommes pécheurs? Parce que nous sommes sous l'empire du péché. La France est la 5e République. Et nous sommes sous la 5e République. La constitution de la 5e République dirige tout le fonctionnement de la France, fonctionnement politique, administratif. Et toute notre vie quotidienne même est impactée par la constitution de la 5e République. Nous sommes sous la 5e République. Ça, c'est juste pour faire comprendre la façon dont nous pouvons être également, nous sommes également sous la domination du péché. Comment savoir que nous sommes sous la domination du péché? Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. L'homme est une créature aux capacités extraordinaires, mais hélas, nous les utilisons très peu. Et bien souvent, nous les utilisons, nos capacités extraordinaires, pour faire du mal. C'est ça, le drame de l'humanité. Nous sommes des créatures déchues, explique la parole de Dieu. On a perdu la gloire de Dieu. On a perdu ce qui faisait toute notre richesse et notre bonheur. Le contact avec le Dieu très saint. Cassé, perdu. On est en panne, comme ces virus qui s'est introduit dans le système hospitalier là quelques jours, et paf, l'hôpital entier s'est arrêté. Le péché dans nos vies vis-à-vis de Dieu, c'est ça. Quand le péché arrive, tout s'arrête, entre l'homme et Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le salut est gratuit. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que cette justice de Dieu, que Dieu veut donner, est gratuite. Elle est par grâce. Des fois, on reçoit les cadeaux, on dit « Ah ben, je l'ai bien mérité. » Mais là, c'est par grâce. Un coupable, à l'époque, il y a quelque temps de cela, en France, il y avait la peine de mort, et c'était avant les années 80, et quand il y avait un condamné à mort, il y avait tous les recours qui avaient été faits, et la justice avait déclaré « Cet homme mérite la mort. Cet homme mérite la mort. » Et le président de la République avait la possibilité d'accorder sa grâce. Et la peine était changée en prison à vie. C'était immérité. La seule chose que méritait l'homme, c'était de mourir. C'était clair, clairement établi par la loi. Et en ce qui concerne la culpabilité du pécheur et la grâce que Dieu donne, c'est d'une autre dimension. C'est imaginez que vous avez fait un crime grave, et puis vous êtes coupable, et la grâce intervient de quelle façon? Eh bien, vous allez être mis en liberté, et puis votre casier judiciaire va devenir vierge. Tout ça va être transféré sur une autre personne. Transféré sur une autre personne. La grâce de Dieu. Alors, comment cela se passe? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 24. Jésus-Christ est le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. C'est ce qui permettait à un esclave. Un esclave ne pouvait pas, il était né esclave et resté esclave toute sa vie. La seule façon de le faire sortir de sa condition d'esclave, c'était qu'il soit racheté et mis en liberté, et qu'il puisse, pour être un homme, devenir un homme libre. Ça, l'idée de la rédemption, d'être racheté. Le moyen de la rédemption, c'est un prix à payer. Et ce prix à payer, ce moyen, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on rentre un petit peu plus loin dans l'explication, versets 25-26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Jésus-Christ est destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Jésus est de victime propitiatoire qui donne la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ce vocabulaire? On peut aussi traduire victime expiatoire. faire l'expiation. C'est un sacrifice qui rend Dieu favorable. Les lecteurs, les premiers lecteurs de Paul, tout ça était très clair pour eux, parce qu'à ce moment-là, le système d'idolâtrie fonctionnait à plein. Et puis, pour chercher la faveur de son Dieu, de son idole, on faisait des sacrifices. Il y avait des temples partout et toute une organisation pour faire cela, offrir des sacrifices d'animaux à des dieux, faux dieux, des idoles. Et bon, tout ça, ça a remonté du temps de Noé. Ça avait été perverti, ça avait été dévié des sacrifices qui devaient être rendus au Dieu créateur seul. La loi de Moïse expliquait parfaitement le sens et la façon dont on devait faire expiation quand un Israélite avait péché. Il était coupable devant Dieu. Et la seule façon qu'il avait, c'était de prendre un agneau, poser sa main sur, l'amener devant le souverain sacrificateur, devant la présence de Dieu, poser sa main sur lui, confesser le péché, et l'animal était, il y avait le transfert de la culpabilité de l'homme qui passait dans l'animal, et l'animal était mis à mort, et l'Israélite repartait de là avec la certitude qu'il était pardonné. Mais il fallait renouveler ce sacrifice chaque fois que l'on péchait. Le peuple entier devait renouveler périodiquement ce sacrifice également d'expiation. Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, disait Jean-Baptiste en voyant voir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Notre texte précise par son sang. Par son sang, par le sang de Jésus-Christ. Ah, alors là, peut-être qu'on ne comprend plus. Notre culture citadine, on vit tellement loin du sang. Et qui d'entre nous a déjà mis un animal à mort avant de le consommer? Pendant des siècles, ça s'est fait. Et dans les campagnes, encore, ceux qui élèvent leurs poules et les canards, ils pratiquent. Mais pour la plupart, on est loin de cela. Le sacrifice de Jésus-Christ a été... Le sacrifice d'expiation est un sacrifice sanglant. Et la différence entre Jésus-Christ et les animaux, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ était volontaire. Il était conscient. Et la différence avec les animaux également, c'est qu'on ne cherche pas à faire souffrir l'animal quand on le met à mort. Mais pour Jésus-Christ, il a vécu l'agonie de la croix. Il devait souffrir, il a été crucifié pour souffrir le plus longtemps et le plus terriblement possible. Il a souffert également du poids du péché. Donc il s'est chargé le transfert de toutes nos fautes sur lui. Il a souffert de l'abandon de son Père, de l'abandon de ses disciples, mais l'abandon de son Père céleste avec qui il avait une relation pendant toute sa vie profonde, nourrie. Il a dû boire la coupe de la colère de Dieu que nous méritions jusqu'à la dernière goutte. Hein? La juste colère de Dieu que mérite le pécheur. Son sang sur la croix est le marqueur de tout cela. Son sang a coulé. Sa vie a été donnée. Sa vie a réellement été donnée. Son sang a coulé. Ça a été quelque chose de public et de manifeste. Et ce sang témoigne du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Quelle est la valeur du sang de Jésus-Christ? Son Père céleste a dit, à lui, j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce Fils-là, il l'a placé sur la croix et il l'a frappé pour faire expiation de nos fautes. la valeur du sang de Jésus-Christ est énorme. Et les années, les siècles sont passés, elle n'a pas perdu de sa valeur. Cette traverse les ans, les temps et les âges, la valeur du sang du Fils de Dieu, souffrant en victime expiatoire sur le mont Golgotha. Victime propitiatoire, par son sang pour ceux qui croiraient, pour la foi, et l'imposteur insiste encore là-dessus, seuls ceux qui ont la foi vont être au bénéfice de ce sacrifice expiatoire. Seuls ceux-là trouveront le pardon. Hein. Ceux qui ne tiennent pour rien du tout dans le sang de Jésus-Christ, ouais, pour moi ça ne me concerne pas. Ils n'ont rien à espérer. Et d'ailleurs, ils n'attendent rien. Ils n'ont pas conscience de leur culpabilité devant Dieu. Et ils ne plaident pas coupables. Donc, le sang de Jésus-Christ, ils disent que ce n'est pas pour eux. Pourtant, c'est que par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, que l'expiation est efficace. Verset 25 et 26. Dieu a montré ainsi sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, Dieu est juste de rendre juste l'injuste. Est-ce que Dieu est juste de déclarer juste un coupable? Oui. Pourquoi? Parce que la justice est satisfaite. La faute a été payée. Hein sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a payé le prix du péché. Il s'est écrié « Tout est accompli ». Donc, il a pris sur lui la pénalité. Hein, dans le foot, il y a les pénalties, vous savez, quand on se prend en pénalty, quelle honte, c'est grave. Quand on se prend un carton rouge, c'est fini. Le match est fini pour le joueur. Il prend cela sur lui. Donc, si vous êtes un joueur de foot, bah, vous pouvez revenir sur le terrain. Quelqu'un a pris le carton rouge. À votre place, c'est quelqu'un qui avait été légitime pour le faire. Alors, quelques précisions que donne l'apôtre Paul en suivant. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il n'y a aucun sujet de fierté personnelle dans la justification par la foi. S'il s'agissait de faire quelque chose de bien, supposons que vous avez votre permis de conduire et tous vos points, vous avez toujours eu tous vos points, jamais flashé par un radar, jamais une infraction, ouais, tous vos points, vous avez toujours eu, vous pouvez être fier de cela, c'est une belle performance. Mais si les points que vous avez perdus, ils sont débités sur le permis d'une autre personne, alors là, la fierté, c'est nul, ça revient à zéro. Hein. Alors bien sûr, on peut être heureux d'avoir trouvé le pardon de Dieu. On peut être heureux de désirer parler de l'Évangile, c'est naturel. On peut être fier de Jésus, celui qui nous a acquis ce si grand salut. Mais pour être fier d'avoir même la foi, ce n'est pas un sujet de fierté. L'apôtre Paul en parle plus tard. Même avoir la foi, ce n'est pas un sujet de fierté. Toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Jésus-Christ. Aucun sujet de se glorifier, d'être fier. Verset 29-30. Ou bien, autre question que pose l'apôtre Paul avant d'y répondre, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Il est aussi des païens puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi aussi les incirconcis. Les non-juifs, autant que les juifs, peuvent être justifiés. On avait déjà vu que les deux étaient coupables. Mais les deux sont justifiés. Il n'y a pas de privilège particulier pour les juifs. Et il va démontrer cela dans les textes qui suivent après. Mais tout de suite, comment on peut comprendre ça? Je n'ai pas été baptisé, j'ai pas fait de catéchisme, j'ai même pas des parents chrétiens. Je suis né dans une famille, je suis dans une famille musulmane, je suis bouddhiste ou je suis athée. Est-ce que l'évangile est pour moi? Oui, absolument, absolument. C'est un oui catégorique. L'évangile est pour tous les humains, sans exception. Jésus a porté l'expiation sans faire de différence. Dernier point. Oui, il le précise, il n'y a qu'un seul Dieu. Dernier point. Annulons, verset 31, annulons-nous donc la loi par la foi? Est-ce que il y avait le système de la loi? Si on respectait ce que Dieu demande, puisque Dieu demande, on est déclaré juste, on est juste devant lui. Est-ce que c'est remplacer ce système-là par la foi? Est-ce que la loi est annulée, est abrogée? Non. Loin de là, au contraire. Ce qui va nous amener à la foi, c'est la loi. Si on n'a pas la conviction qu'on est coupable, mais on ne va jamais saisir l'opportunité du sang de Jésus-Christ versé à la croix pour trouver le pardon. Donc la loi est parfaitement d'actualité. Et puis si l'on ne veut pas de Jésus-Christ, mais la loi est toujours là et il déclare notre culpabilité. Donc la loi n'est pas du tout abrogée, annulée. Et l'apôtre dit au contraire. Au contraire, il développe ça également plus loin. Alors, où nous en sommes? Quelles implications pour aujourd'hui, hein? La parole de Dieu est valable pour l'éternité. Qu'est-ce qui m'empêche de croire dans ce message de l'évangile que Paul présente avec tant de conviction, tant d'arguments? On peut dire, bah moi j'ai ma religion, c'est souvent l'objection. J'ai déjà ma religion, moi. Hein. Moi ça va ma religion. J'ai déjà quelque chose. Quelles sont les exigences de cette religion? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a. Est-ce que ces exigences sont remplies? Est-ce que elles sont satisfaisantes au devant de Dieu? Ou bien ma religion, c'est surtout chercher l'approbation de ceux qui m'entourent. Les exigences, c'est surtout vis-à-vis de mon voisin. Non. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? C'est ça la vraie question. Pas ce que pense le voisin. C'est pas au voisin qu'on va avoir affaire dans l'éternité, c'est à Dieu. Hein? Autre objection, je ne suis pas si mauvais que ça, vous savez. Je ne suis pas si mauvais que ça. Mauvais par rapport à qui? Bien sûr, par rapport aux autres, mais c'est par rapport à Dieu que ça compte. Encore une fois, c'est à lui qu'on a affaire, c'est à lui devant qui on va comparaître. Est-ce que je n'ai pas juger chez les autres des choses que j'ai fait moi-même? Est-ce que, il y a des choses à quoi j'arrive pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent? Et qu'en est-il de moi vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je n'ai pas, même si j'estime que c'est comme ça, ma culpabilité par rapport à d'autres qui sont comme ça? Mais ça, j'ai pas besoin de pardon. Bien entendu que si. Ce n'est pas pour moi. L'évangile, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas l'avis de Paul. Il voit deux catégories d'hommes, les juifs et les non-juifs. Il n'y en a pas une troisième catégorie des pas pour moi. C'est pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tous les hommes sont logés à la même enseigne. Et ceux qui sont juifs ont une enseigne un peu différente. Mais pour l'évangile, c'est exactement la même chose. Autre objection, plus tard peut-être, ouais, d'accord, mais plus tard. Plus tard. Alors, vous imaginez une personne coupable, donc condamnée à mort ou à perpète, ou même si vous avez un tas de PV comme ça qui se sont accumulés, parce que voilà, quelqu'un vous avez l'offre, ben voilà, vous mes livres, je vous gracie. La porte de la prison est ouverte. Ou bien personne ne vous propose de payer vos contraventions. Plus tard. Plus tard. Je reste dans la prison. Plus tard avec les contraventions. Hein, je continue ma collection. Est-ce raisonnable de dire plus tard? Je vais en ajouter quelques-uns. Non. C'est la pure folie. L'apôtre dit, mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut croire en Jésus-Christ. Pas attendre à demain. Demain ne nous appartient pas. Maintenant, la porte du salut est ouverte. Prendre une bonne décision. Les principaux freins à la conversion aussi sont c'était de faire des ruptures. Rupture avec le péché. Tant qu'on n'est pas convaincu que le péché est un drame dans notre vie, que c'est nocif, c'est répugnant, ça nous fait du tort, ça fait du tort autour de nous, ça blesse le cœur de Dieu, tant qu'on est, on n'est pas convaincu de cela, mais on ne voudra pas rompre avec lui. On peut demander à Dieu. Priez, montre-moi dans ma vie ce qui ne va pas. Vous pouvez être certain que Dieu va répondre à cette prière. Par son esprit, il va vous montrer ce qui ne va pas. Un autre frein, c'est peut-être la culture. Il y a une rupture de culture à faire. Parce qu'on est dans un monde qui va très bien, sans Dieu, apparemment. Et puis tout le monde autour fonctionne bien, mais qu'est-ce que si moi je me convertis, comme on dit, que je devienne chrétien, que je me convertisse au christianisme, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ma famille, mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont... L'important, c'est ce que Dieu pense de vous. Les voisins, c'est important, mais Dieu, c'est plus important. C'est tellement décisif. C'est l'éternité qui se joue là. C'est l'éternité qui se joue là. Il y a aussi une autre rupture qui est peut-être la plus difficile. C'est la rupture dans sa façon de conduire la vie. Sa vie, sa propre vie. Quand on comprend le drame, quand on réalise le drame de notre vie sans Dieu, sans le poids des péchés, le tort que l'on génère autour de nous, les dégâts qu'on fait, quand on prend conscience de ça, et quand d'accord, Jésus-Christ a payé sur la croix pour cela, mais cela implique accepter ce pardon. Forcément, le prix était tellement important que cela appelle une reconnaissance, cela appelle un retour. Il a donné sa vie pour moi, mais en retour, je donne ma vie pour lui. Je lui dois tout. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du capitaine Nemo. Là, il avait des prisonniers qu'il avait délivrés des bagnes, de l'enfer du bagne. Et puis ces hommes le suivaient. Il lui devait tout. Hein. Il lui devait tout. Et c'est ça qui est difficile. Hein. C'est de... Ouais. Maintenant, ma vie, c'est plus moi qui vais la gérer, c'est Jésus-Christ. Je lui confie ma vie. J'en ai marre de pécher, j'en ai marre de faire des conneries. Je te la confie, Jésus-Christ. Je voudrais que. C'est à toi maintenant de me prendre en charge. C'est à toi de ne plus me faire pécher, de m'apprendre à vivre et à être une bénédiction autour de moi au lieu d'être une malédiction. Pour ceux qui m'entourent, hein. J'utilise des mots un peu forts là, excusez-moi. Alors on va prier maintenant, puisqu'on est arrivé à la fin du texte. Seigneur Jésus-Christ, merci pour de faire ce qu'on était incapable de faire. Mais premièrement, de nous montrer le besoin d'être pardonné, le besoin que notre culpabilité soit ôtée devant toi premièrement. Devant toi premièrement. Parce que si on est en règle avec toi, les choses, autres choses vont s'arranger. Merci de nous avoir fait comprendre l'importance de ne pas pécher, la gravité du péché. Merci pour Jésus-Christ qui est devenu pour nous obtenir le pardon, qui prend sur lui les conséquences éternelles de ces fautes-là. La perdition éternelle, notre avenir qui était si mal parti, une vie loin de Dieu, privée de la communion avec celui qui nous donne le souffle de la vie. Passer à côté de ma destinée, être, comme dit l'Écriture, comme un malheureux dans le désert qui ne voit pas arriver le bonheur. Seigneur, merci de pardonner mes fautes. Je demande pardon, j'accepte, je crois dans le sacrifice de Jésus-Christ et qu'il soit maintenant le maître de ma vie. Amen.